panorama économique.
Bienvenue au panorama économique de ce week-end. Au menu de votre magazine, la taxe de péage sera officielle dès le 15 avril prochain dans la province du Kasaï occidental. Quel avantage la province pourra tirer de cette nouvelle source de recettes? Commentaires et analyses tout à l'heure. Et dans la rubrique matières premières, nous parlerons carburant avec différents prix pratiqués à la pompe. Situation vécue ces jours-ci à Lubumbashi dans le Katanga. Le reportage de la semaine nous gardera à Kinshasa, où l'on constate que les soins de santé ayant des coûts exorbitants mettent à mal l'économie des ménages. L'invité du panorama économique de ce week-end s'appelle José Mbou. José Mbou est président national de l'organisation ACEDRO. Il est président du Conseil national des organisations de prévention du crime en RDC, axe corruption et blanchiment. Il est membre du comité de pilotage du gouvernement contre la corruption pour la représentation associative, analyste et expert pays des questions de la corruption. José Mbou, bonjour.
Bonjour madame.
Willy Akonda et Agathe Mpona Elema vous présentent ce panorama économique. Jean-Claude Tsala est à la technique. Chers auditeurs, merci de nous rester fidèles.
Panorama économique, le dossier.
Premier dossier de la semaine au Kasaï occidental, lancement officiel de la taxe de péage le 15 avril prochain. Le ministre provincial de transport l'a annoncé ce week-end au cours d'un point de presse.
Selon lui, tout se base sur les dits portants établissements et répartition de la taxe de péage pour l'utilisation des routes, ponts et bac en province. Cette édite vise la mise en place d'un cadre juridique et technique pour la promotion de la bonne gouvernance en province. Plus de détails avec Pascal Kankondé.
Le ministre se référait à l'édit portant établissement et répartition de la taxe des péages pour l'utilisation des routes, ponts et bacs sur toute l'étendue de la province du Kasaï occidental. Les fonds des péages perçus seront destinés à l'entretien et à la réhabilitation des routes, ponts et bacs, au fonctionnement des différents comités ainsi qu'à la prime allouée aux péagistes. D'après Gaston Chibobo, conseiller politique administratif du ministre provincial du transport du Kasaï occidental, 37 postes de péage seront installés sur toute l'étendue de la province. 5 sont sur la nationale numéro 1 et 5 autres sur l'entrée principale de la ville. Sur la route numéro 20, plusieurs postes secondaires seront installés. Ainsi donc, les motocyclistes payeront 2000 francs congolais, les véhicules légers 20 000, les poids lourds 40 000, les remorques 50 000 francs congolais. Sont exemptés conformément à l'article 11 de cet édit, les véhicules appartenant à l'État et ceux des organismes internationaux à caractère humanitaire, des corps, des missions diplomatiques, philanthropiques et des hommes de presse identifiables à mission de Kananga, Pascal Kankondé, Écho d'économie.
Merci Pascal et bon week-end à Kananga. Je me retourne vers José Mbou qui est l'invité de Panorama économique aujourd'hui. C'est avec lui que nous faisons analyse et commentaires sur les différents sujets que nous allons exploiter. Le premier sujet, c'est ce péage route qui a été institué dans cette partie du pays. C'est plutôt une bonne nouvelle, Monsieur Mbou.
Je vous remercie, madame. Effectivement, c'est une bonne nouvelle. Nous devons féliciter tout ce qui se fait. Mais la grande question est la question centrale du Congo, sont que tous les segments de notre société sont noyés dans la question de la corruption. Or, cela forme l'ensemble des éléments de l'économie de notre pays et qui doivent être transformés, soit en développement, en émergence pays ou rencontrer le social, tant entendu et prétendument promu par les populations congolaises. Ah, donc, pour renverser cette situation économique, il faut que cette question de la corruption qui est devenue un fléau aujourd'hui, que notamment le contrôle parlementaire soit efficace au niveau des provinces ou au niveau national, que l'impunité pour la question de la corruption ait une loi vigoureuse dans son aspect répressif et qui agirait ainsi sur tous les individus congolais, officiels ou pas.
Mais par exemple, concernant cette nouvelle du péage route, pensez-vous qu'il y a un risque, vous êtes un expert dans le domaine des corruptions, blanchiment d'argent, pensez-vous qu'au-delà de la bonne nouvelle que cela constitue, il y ait un risque de détournement ou de corruption?
Mais écoutez, moi je parle sous des indicateurs. Hein. Vous savez qu'il y a une année et demie, la commission gouvernementale du ministère de la Justice sur la question de la corruption est descendue jusqu'à Katanga. Au Katanga pour aller justement vérifier un peu au niveau des frontières qu'est-ce qui se passe sur cette question. Mais cette commission gouvernementale du gouvernement central a été refoulée, rejetée et retournée à Kinshasa. Que ce qui se passe au Katanga ne vous regarde pas. Donc vous comprenez un peu quand le gouvernement central au niveau du ministère de la Justice veut réguler une question de corruption et voir beaucoup plus clair dans cette situation, on la refoule. Donc pour nous, il c'est tout à fait évident qu'il y a encore des pesanteurs sur la question de la corruption. Tant bien même que le projet est bon, il faut encore intégrer, comment dirais-je, les dimensions de corruption, de lutte contre la corruption, pour que l'ensemble de ces financements arrive.
Concrètement, dans ce cas, quels seront les verrous qu'il faudrait, à votre avis, poser?
Mais justement, c'est ce que nous sommes en train de dire depuis le départ, c'est que le travail a déjà été fait au Forum national de lutte contre la corruption. Les experts ont parlé de toutes ces questions, comment dirais-je, pour gérer les finances de l'État. C'est pour ça que nous attendons encore jusqu'à présent que la présidence de la République demande à la majorité parlementaire qui est là, la loi que nous avons élaborée au Forum national de lutte contre la corruption, qui comprend plusieurs segments, notamment ce segment ici, pour, comment dirais-je, réaliser mieux l'éthique au niveau, comment dirais-je, la gestion des actes publics. Et ce document, jusque-là, présent, tarde à venir.
Le deuxième dossier de la semaine nous conduit à Kindu, où les opérateurs économiques s'insurgent contre le protocole d'accord signé entre les responsables de la Fédération des entreprises du Congo, section Maniema, et l'Office congolais de contrôle.
Ils refusent de payer les frais ou rémunérations pour les transactions locales mises sous le contrôle de l'OCC. Pour eux, l'OCC n'est pas habilité à procéder au contrôle de produits fabriqués localement. Ils estiment que c'est une décision prise par les responsables provinciaux de la FEC sans les consulter. Le point avec Mathieu Ilunga Chamboui dans ce reportage.
Tout est parti d'un arrêté du gouverneur de la province qui autorise à l'OCC Maniema le contrôle et l'inspection des produits locaux qui jouissent des transactions locales. Pour les opérateurs économiques du Maniema, seules les taxes légales de l'OCC recommandées par la loi congolaise sont les bienvenues. Ils condamnent leurs représentants provinciaux d'avoir signé un protocole d'accord avec l'OCC en catimini. Ils leur demandent de retirer leur signature. Christophe Colombe Bilombo parle au nom des opérateurs économiques présents dans la salle.
Disons ceci, qu'il retire sa signature aujourd'hui. De deux, ce protocole ne nous engage à rien. C'est un protocole signé entre la FEC, le président et le directeur. Aucun opérateur économique n'a été informé. Donc nous disons non et nous refusons. Jusqu'aujourd'hui, l'OCC n'a pas de laboratoire. On vient seulement collecter l'argent et nous refusons de payer ce qui n'est pas prévu par la loi. L'OCC n'a pas de taxes. L'OCC perçoit les frais rémunératoires pour un service rendu. Qu'il installe d'abord le laboratoire, ça n'engage pas l'opérateur économique.
Quant aux responsables de la FEC au niveau de la province, ils ont agi selon le mandat leur conféré par l'Assemblée générale de la Fédération des entreprises congolaise FEC en sigle. Monsieur Malumba.
Nous avons pris cet engagement rien que pour défendre les intérêts des opérateurs économiques. Je ne l'ai pas fait unilatéralement. J'ai un mandat qui me donne le pouvoir d'engager la FEC. Et si j'engage la FEC dans le mauvais sens, là, je peux reconnaître que, mea culpa, j'ai mal fait. Mais lorsque j'engage la FEC à mon âme et conscience, que c'est pour la protection des consommateurs qui sont opérateurs économiques, population, je n'ai pas un remords.
Le ministre provincial de l'Intérieur vient de projeter une rencontre. Celle-ci va réunir l'OCC, les opérateurs économiques, la direction FEC et les autorités provinciales pour faire comprendre aux uns et aux autres les bien fondés de l'arrêté du gouverneur. Toussaint Kawaya, Alex.
La rencontre de ce matin, il est conclu ceci, que ce qui est légal et obligatoire est accepté par tout le marchand de la ville. Quant au protocole d'accord, qui consiste essentiellement en des services que l'OCC doit rendre aux différents partenaires commerçants, transactions locales, cela pourra se discuter demain, de son adoption, de sa révision avec l'OCC.
Dans l'entretemps, il demande aux commerçants de continuer à s'acquitter de leurs obligations en payant tous les frais qui leur sont demandés en attendant qu'un compromis soit trouvé. Depuis Kindu, Mathieu Ilunga Chambou, Omona Tchibé pour Écho d'économie.
Merci Mathieu Ilunga. Nous revenons dans ce studio. José Mbou est avec nous pour commenter et analyser les différentes actualités économiques. Monsieur Mbou, vous avez suivi cette guéguerre entre les opérateurs économiques et leurs représentants à la FEC sur les frais que doit percevoir l'OCC. Ils ne sont pas d'accord de payer des frais pour un travail pour lequel ils estiment que l'OCC n'a pas compétence. Comment vous pouvez analyser cette situation?
Rationnellement, je crois que les économistes qui doivent payer, les opérateurs économiques qui doivent payer les services, effectivement, doivent s'attendre à un service. Mais ici, la question, c'est laquelle? C'est encore une fois une question de bonne gouvernance, une question d'éthique.
Dans quel sens?
Dans le sens que il faut nécessairement négocier avec les opérateurs économiques avant de libérer une loi. Ça, c'est un premier élément. Mais aussi, un deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de la politique interne de l'OCC, l'OCC peut se prévaloir de vouloir, comment dirais-je, taxer certains services et il est tout à fait normal que les gens doivent suivre. C'est comme on dit, la loi peut peut-être mon œuvre mauvaise, mais la loi doit être appliquée. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est laquelle? C'est que si aujourd'hui la FEC estime qu'il faut impérativement qu'on paye, comment dirais-je, ses frais, ben écoutez, dans la mesure où elle est aussi un organe qui protège aussi, comment dirais-je, les consommateurs, parce qu'elle fait partie de cette situation-là, je crois qu'il faut simplement aller d'abord en négociation, hein, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a aussi un problème au niveau de l'OCC. L'OCC n'a pas d'installation, tout ça. L'OCC a besoin d'argent. Donc, je ne sais pas quelle chimie il faut faire à ce niveau-là, mais je crois que seule l'éthique et la bonne gouvernance, c'est-à-dire qu'une négociation préalable entre tous ces services et, comment dirais-je, les opérateurs économiques pourrait résoudre cette question.
Hein, mais est-ce que si les opérateurs se disent que nous ne payons pas jusqu'à ce que nous voyons l'OCC muni de tous les instruments nécessaires pour faire son contrôle, est-ce que ça serait éthique?
Oui, mais ça serait pas éthique, mais c'est ce que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Mais simplement aujourd'hui aussi, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'OCC a besoin d'argent. L'OCC aussi a besoin d'argent pour, comment dirais-je, faire de nouvelles installations. Donc la question qui est là, c'est laquelle? C'est qu'il faut une négociation, madame, pour permettre aussi à l'OCC d'avoir les moyens de mettre ces installations en place. Et puis autre chose encore, il y a au niveau de l'OCC, nous sommes, nous, en tant qu'organisation non gouvernementale, travaillant dans les secteurs, en train d'élaborer maintenant des matières pour transmettre à l'OCC, okay, en ce qui porte tout ce qui est, toutes les volumes économiques qui rentrent au Congo, qui ne sont pas dans les normatives. Hein, vous savez, tous les produits qui viennent
notamment... Il n'y a pas de normes, on est
Il n'y a pas de normes. Aujourd'hui, vous achetez quelque chose, le soir, c'est déjà, comment dirais-je, déchiré, c'est abîmé, etc. Tous ces produits qui viennent de la Chine. Donc, il y a un travail énorme à faire là-dessus. Et pour aujourd'hui rejoindre et atteindre ces niveaux, comment dirais-je, compétitifs d'actualisation des normes, impérativement, il faut du matériel et du matériel extrêmement coûteux. Alors, je crois qu'ici, il faut peut-être préalablement, puisqu'ils sont obligés de travailler ensemble dans l'intérêt de tout le monde, je crois qu'il faut une négociation, encore une fois, est-il, c'est encore une question d'éthique et de bonne gouvernance. Est-ce que cet argent servira à ce qui a été demandé. Donc, c'est là le grand débat. Je suis toujours dans le domaine de la corruption. Nous devons nous attaquer à la question de la corruption, avoir les lois qu'il faut pour tenir tout le monde en état et pouvoir avancer dans tous les domaines.
Le troisième dossier de la semaine, le syndicat national des vendeurs du Congo dénonce la prise en charge par les opérateurs économiques des frais d'hébergement bancaire, des taxes et impôts payés aux régies financières. William Konda.
Selon eux, cette charge doit plutôt être supportée par l'État congolais, comme c'est le cas avec la régie provinciale. On écoute Ghislain Lokofo, président du syndicat national des vendeurs du Congo.
Et lorsque nous payons ces impôts, droits et taxes pour le gouvernement central, en dehors de ces taxes, on nous demande de payer les frais bancaires qui est à la charge des opérateurs économiques. Mais tandis qu'au niveau du gouvernement provincial, lorsqu'on nous demande de payer les taxes et droits provinciaux, on nous demande pas de payer les frais bancaires. Alors cette différence-là au niveau du syndicat national des vendeurs du Congo, nous déplorons ce comportement. C'est pour cette raison que nous dénonçons et nous voulons assez que le gouvernement puisse prendre une décision suspendant le paiement des frais bancaires par les opérateurs économiques lors des paiements des impôts, droits et taxes.
À la Direction générale des impôts, on souligne que cet argent est payé pour le compte du Trésor public et non pas à une régie quelconque.
Les directeurs urbains de cette régie financière proposent que les opérateurs économiques négocient plutôt avec ces banques pour qu'elles baissent le coût de ces frais. On écoute Mosango Ebisa Lolo, directeur urbain de la DGI.
Le directeur général a signé depuis le mois de novembre de l'année passée un communiqué qui oblige les opérateurs économiques de procéder au paiement en faveur du Trésor par virement bancaire et non par espèce. Ce qui est malheureusement vrai avec la CADECO. Les gens viennent avec de l'argent en espèce pour verser pour compte du Trésor. Ce n'est pas l'argent de la DGI pour que vous puissiez dire à la DGI de supporter les frais bancaires. C'est l'argent versé au compte du Trésor en sollicitant une transaction au niveau de la CADECO ou au niveau d'une banque. Et les banques doivent fonctionner et elles fixent leurs frais pour ce genre d'opérations. Et je crois que la démarche qui serait la bienvenue, c'est que ces gens-là puissent approcher soit la CADECO, soit la banque ou négocier avec éventuellement les niveaux de paiement de ces frais.
Et nous revenons dans ce studio. Vous avez suivi cette information. C'est bien en faveur de la lutte contre la corruption que les frais soient payés à la banque. Mais est-ce que c'est aux opérateurs économiques de supporter les frais? Est-ce que ça, de votre point de vue, c'est éthique?
Voilà, c'est ça un peu la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un prix à payer pour le gâchis et le désastre que nous avons créé dans la société. Et si on considère les circuits monétaires de paiement qui est des règlements des taxes et ne plus efficaces et qu'il faille passer par des banques pour plus de transparence et de traçabilité, comment diriger ces paiements, je pense que nous tous, nous pouvons simplement nous en réjouir. Alors maintenant, bien entendu, cela peut former une plus large assiette en recouvrement de fonds publics pour permettre à un meilleur paiement. C'est ce que nous sommes en train de... Le barème a été mis en place, donc maintenant il faut payer ces barèmes. Donc nous devons passer par les banques, je pense, pour pouvoir emmagasiner le maximum, comment dirais-je, de moyens et avancer. Alors, mais il y a encore un autre aspect dans cette question, c'est que c'est ça, un aspect éthique encore une fois, c'est qu'on demande aux opérateurs économiques de se régulariser de cette façon-là, mais vous avez les sénateurs, les parlementaires, tous ces hommes-là, les personnalités à grosse fortune, qui jusqu'à aujourd'hui ne payent pas, comment dirais-je, les taxes consécutives, comment dirais-je, à leurs avoirs. Alors maintenant, il y a encore une question de justification des avoirs à ce niveau-là. C'est pour ça, encore une fois, madame, nous sommes tout à fait d'accord sur ce fait que si on peut payer par voie bancaire de façon à ce que chacun trouve son compte, c'est une bonne chose.
Tant mieux.
Mais encore une fois, pourquoi est-ce qu'on doit passer par là? C'est parce que justement, il y a la question de la corruption.
Okay.
Voilà. Alors, c'est pour ça que nous sommes en train de dire qu'il faut que aujourd'hui la partie de la gouvernance, comment dirais-je, institutionnelle, nous donne cette loi. Parce que cette loi permet justement, madame, à ce qu'il y ait une levée automatique de l'immunité sur les questions ayant trait à la corruption. Alors, c'est une loi qui permet de mettre en place une commission de réflexion sur la question de la corruption. C'est une loi qui met en place une agence nationale indépendante pour résoudre les questions de la corruption.
À quel niveau se trouve cette loi dont vous nous parlez depuis le début de l'émission?
La loi a déjà été introduite, comment dirais-je, au gouvernement. La dernière personne qui a reçu cette loi, après validation, c'est le ministre de l'Intérieur, Lumanu. Alors, depuis, ça fait près de 2 ans que nous sommes en train d'en courir, la loi ne passe pas. Alors, bien entendu, cette agence nationale que nous avons besoin, elle doit nous permettre justement d'avoir tous les renseignements sur les caractères financiers de tout un chacun de nous. Et puis cette loi crée ce qu'on appelle la déclaration des avoirs de tout un chacun.
Qui mais permet vous pensez qu'une fois cette loi passée au Parlement, les problèmes de la corruption auront solution
en RDC? Oui, elle aura solution parce que les structures qui sont mises en place sont des structures indépendantes. Alors qu'aujourd'hui, toutes les structures qui existent de lutte contre la corruption sont sous tutelle des ministères, etc. Donc elles n'avancent pas. Elles ont des restrictions, elles ont des périmètres qui sont limités, qui ne permettent pas de travailler. Tandis que là, c'est une organisation indépendante, c'est-à-dire elle agit sous toutes les personnes. Elle peut agir sous les chefs de l'État, sous les ministres, sous vous et moi, sous tous les agents de l'État. Donc c'est comme ça que la loi a été conçue. Donc nous attendons cette loi, et puis c'est une loi qui couvre toutes les personnes qui sont en train de faire les dénonciations et les experts en matière de lutte contre la corruption. Donc impérativement, nous avons besoin de cette loi. Cette loi permettra justement de bloquer toutes les personnes qui sont en train de faire des transactions contraires, comment dirais-je, à la bonne gouvernance des institutions publiques. Donc si payer par voie bancaire est plus sûr pour que la nation rencontre, comment dirais-je, ses avoirs, nous pensons que c'est tout à fait, comment dirais-je, de bonne à loi.
La lutte est encore longue.
Effectivement, mais nous y arriverons.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Quelques nouvelles en bref. Hausse de prix de certains produits de première nécessité à Kamina au Katanga depuis ce lundi.
La mesure des riz qui s'est vendée il y a quelques jours entre 3500 francs congolais et 4000 s'est vendue cette semaine à 7000 francs. Selon les autorités locales, la hausse des prix de ces produits est due à la carence sur le marché, le mauvais état des routes dans les Haut-Lomami ainsi que les irrégularités des trains des marchandises de la SNCC ne permettent pas d'inonder le marché de Kamina en certains produits.
Encore une hausse de prix, cette fois-ci des produits Marsafco à Kindu dans le Maniema depuis plus de 2 semaines.
C'est une augmentation qui avoisine les 100%. Il s'agit du savon Monganga qui passe de 250 francs à 450 francs congolais, du savon Les Coques qui se vend maintenant à 500 francs congolais au lieu de 300 francs. Par ailleurs, la soude caustique, très sollicitée par les fabricants de savon, a carrément doublé le prix. Un kilo revient à 4000 francs au lieu de 2000 francs congolais. Pour le moment, les causes de cette hausse ne sont pas encore connues.
Panorama économique, matières premières.
Dans notre rubrique matières premières, nous parlons carburant avec les membres de la commission provinciale pétrolière de la Fédération des entreprises du Congo, section Katanga, qui dénonce la disparité constatée depuis quelques mois dans la vente de carburant à Lubumbashi.
En effet, un litre d'essence est vendu à 1530 francs congolais chez les uns et 1680 chez les autres. Dans une déclaration faite à Radio Kapi, Patrick Mouland, président de cette association, indique qu'il y a à Lubumbashi des stations-service qui ne respectent pas la marge bénéficiaire fixée de 100 francs congolais par le gouvernement. Patrick Mouland est au micro de Colin Djuma Moussampo.
c'est de l'anarchie, tout court.
L'anarchie parce que les prix des produits pétroliers sont fixés par arrêté ministériel.
Qu'est-ce qui fait que cette disparité persiste pendant que vous avez toute une organisation?
Cela persiste non pas par la faute des opérateurs, des commerciaux que nous sommes, mais je mettrai ça plutôt sur un laisser-aller de l'administration publique, c'est-à-dire des autorités politico-administratives. En ce qui me concerne, en tant que président de la commission pétrolière au conseil provincial de la FEC, j'ai plusieurs fois rencontré les autorités politiques pour discuter de la question. Mais rien n'a été fait. Nous ne sommes pas les pouvoirs publics, ce sont les pouvoirs publics qui doivent faire régner l'ordre et la discipline. Les prix sont fixés par arrêté ministériel à la pompe et les prix doivent être respectés selon la réglementation en vigueur en République démocratique du Congo. Chose qui n'est pas faite en province. C'est le chef de division de l'économie qui, d'autorité, devrait faire appliquer les prix des carburants terrestres à la pompe, mais nous constatons que jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, rien n'est fait dans ce sens pour faire appliquer d'autorité la réglementation en vigueur dans le pays. Donc, celles qui appliquent les prix qui ne sont pas conformes à la structure des prix, il faudra bien voir derrière, parce qu'il n'est pas possible de vendre en ayant des pertes. Donc, elles se soustraient à leurs obligations légales, qui sont celles du paiement de la fiscalité.
Problème de fiscalité, la Direction générale des douanes et accises Katanga indique avoir mis fin depuis déjà quelques mois à la contrebande dans l'importation des produits pétroliers, notamment à la frontière de Kasumbalesa.
Déclaration faite ce lundi à Radio Kapi par le directeur provincial de la DGDA. David Kalande réagissait ainsi au propos du président de la commission pétrolière à la Fédération des entreprises du Congo, Katanga. On l'écoute toujours au micro de Konadjo Mamusampo.
Il est important de préciser ici que depuis que nous sommes à la tête de la province, nous avons modifié et changé beaucoup de choses. Dans le passé, il y avait beaucoup d'efforts dans ce qui concerne les produits pétroliers. Aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de camions qui entrent en ce qui concerne les produits pétroliers et qui échappe au contrôle de la douane. Donc tous les camions sont bien suivis. Et je me hasarderai à dire que même la contrebande en ce qui concerne les produits pétroliers est devenue quand même un problème. Parce que nous avons mis en place un système de contrôle, notamment avec les éléments de la brigade douanière. Un système qui fait qu'aujourd'hui, il y a très peu. Ce n'est pas évident. Nous, ce que nous aimerions avoir, c'est des éléments pour faire un contrôle à destination pour les bénéficiaires, par exemple, des exonérations. Et il faut élever ici aussi que, par exemple, le secteur minier, où les produits pétroliers étaient exonérés d'emblée, ce n'est plus le cas aujourd'hui, doit d'abord payer, quitte à se faire rembourser après. Nous avons un secteur où il y a l'exonération, c'est le cas des marchés publics à financement extérieur. Est-ce que c'est par cette voie-là que les autres s'approvisionnent? Je ne voudrais pas l'affirmer, mais il nous revient d'avoir les indications par rapport à ceux qui appliquent les prix faibles pour que nous puissions mettre la machine en marche et voir qui sont ceux qui ne paieraient pas les droits et taxes. Maintenant, c'est de voir ceux qui vendent à moins cher, où est-ce qu'ils ont eu leurs produits? Si ce sont les mêmes produits qu'ils ont dédouanés, ont-ils dédouané correctement? C'est le travail que nous allons faire.
José Mbou, vous avez suivi très attentivement cet élément. Est-ce que vous avez sûrement un commentaire?
Je crois que vous l'avez perçu comme moi. La personne elle-même s'interloque à savoir pourquoi ça. Donc c'est encore une fois une question de corruption, encore une fois. Alors nous disons, dans l'environnement que nous avons aujourd'hui, les affaires ne rassurent pas parce que, bien entendu, la question de la corruption a corrosé l'esprit, l'âme et les personnalités des hommes, enfants, etc. Et ce sont les conséquences qui font qu'aujourd'hui, les gens n'appliquent pas, comment dirais-je, les rues. Et d'autre part, vous avez le gouvernement qui doit normalement prendre en charge la société au travers des articles 11, 12, 41, 42, 47, 48, 51, 53 et 58 de la Constitution qui n'assume pas ses responsabilités. Il y a une situation de misère sociale qui font que les gens cherchent par tous les moyens à comment vivre. C'est ça le débat. Alors maintenant, bien entendu, même les personnes qui sont commises à la douane, là, dont il nous fait état ici, ce sont les gens qui vivent encore les mêmes situations. Il faut qu'on arrive à résoudre le fonctionnement des mécanismes qui sont mis en place pour faire le contrôle. Vous avez l'inspection des finances qui rentre en jeu dans la question, comment dirais-je, des kérosènes, etc. Vous avez les agents, comment dirais-je, économiques pour la question du commerce qui ne font plus leur travail. Il y a tout un... Vous avez la CIABG qui est l'organe aujourd'hui du ministère de la primature qui doit contrôler tout l'ensemble de la bonne gouvernance à tous les niveaux. Toutes ces structures-là ne fonctionnent pas.
Donc il y a un problème dans le circuit qui fait qu'il y a du désordre.
C'est justement ce désordre-là, c'est créé par la corruption. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, chacun veut tirer sa part. Vous comprenez? Et quand chacun commence à utiliser les institutions de l'État pour trouver sa part à lui, bien entendu, ça c'est de la corruption.
Panorama économique, reportage.
Alors qu'un huissier de l'État gagne 50 000 francs congolais comme salaire à la fin du mois, il faut en moyenne 100 000 francs pour se faire soigner dans un hôpital public. Les coûts élevés des soins de santé mettent ainsi à mal l'économie de ménage. Une enquête signée ici, Dako Tambikila.
Dans l'examen de routine, si quelqu'un veut faire les check-up ou quoi, doit se munir au moins de 100 000 francs congolais.
Selon le docteur Mankoi, médecin généraliste à l'hôpital général de Kinshasa, 100 000 francs congolais, c'est le minimum dont il faut disposer pour un simple contrôle de routine, Alex Mamayemu. 15 000 francs congolais pour la consultation, 10 000 à 15 000 francs congolais pour des examens de routine comme gouttes épaisses et autres, et au moins 60 à 70 000 francs congolais pour des examens de biochimie comme le taux du sucre ou acide urique. À la clôture, l'addition est plutôt salée pour cette famille des revenus moyens rencontrée à l'hôpital général de Kinshasa. Selon l'Union des travailleurs, agents et fonctionnaires de l'État, les salaires bruts d'un huissier à la fonction publique est de 50 000 francs congolais. Celui d'un chef de division s'est négocié autour de 70 000 francs congolais. Avec une telle rémunération, se faire soigner dans un hôpital public devient un luxe pour un fonctionnaire. La situation n'est pas différente pour les hôpitaux privés. C'est en tout cas le point de vue du docteur Eric Mumbulu, médecin généraliste en Galima Center.
Pour dire vrai, non. Parce que beaucoup de familles vivent un peu dans la précarité et c'est juste une minime portion de la population qui est capable d'accéder aux soins de qualité. Partout dans le monde, les soins coûtent cher. Donc nous devons faire un effort dans notre pays d'arriver aussi à pouvoir prendre en charge la population avec des systèmes de mutuelles de santé. C'est à ce moment-là que nous pourrons peut-être espérer qu'une bonne partie de la population accède aux soins de qualité.
Fort de cette situation, les centres hospitaliers de fortune constituent désormais une bouée de sauvetage, faute de moyens pour accéder aux soins de qualité dans les hôpitaux publics ou privés les mieux équipés de Kinshasa.
Mbou, José, vous êtes avec nous encore dans ce studio. L'émission touche à sa fin. Vous êtes analyste expert pays des questions de la corruption. Est-ce que vous avez décelé une trace de corruption ou de...
Mais, madame, normalement, les institutions médicales sont budgétisées. Encore une fois, c'est ce que dit le chef de l'État ici. Il nous promet que nous allons aller vers, comment dirais-je, un rétablissement, comment dirais-je, de tout ce qui est le besoin social. Mais les besoins sociaux, pour se réaliser, comme l'a dit madame, doivent être mis sur des rails éthiques. Encore une fois, ça dit même si on vous parle des mutuelles, les mutuelles ailleurs fonctionnent dans des systèmes de société qui sont bien planifiés, bien organisés. Vous comprenez? Donc ça veut dire que tant que le système au Congo est désorganisé, complètement corrosé par la question de la corruption, dans la chaîne des réalisations, il se peut qu'il y ait des actes de corruption qui sont commis et ça ne pourra pas, comment dirais-je, arriver. Donc, encore une fois, il est nécessaire que le gouvernement fasse sa mission sociale. Sa mission sociale qui est au sein du Parlement, hein, à rejoindre les actes dont je vous ai cité tout à l'heure. Les articles 11, 12, 42, 44, 47, 48, 51, 53, 58. Ce sont des actes uniquement liés à la question du social. Tant qu'on ne les rejoint pas, tant que les parlementaires ne tiennent pas compte de ça, madame, nous ne serons pas sortis de l'auberge.
Mais monsieur Mbou, une dernière question peut-être, parce que l'émission touche à sa fin. Est-ce que vous imaginez une société sans corruption?
Non, ça veut dire qu'il y a des sociétés aujourd'hui, mais c'est ça le débat, c'est que les Congolais généralement vous amènent M. Mbou parce qu'ils sont tous impliqués là-dedans. Écoutez, ils sont pas une société. Mais madame, vous avez des sociétés aujourd'hui, vous allez en Irlande, vous allez, comment dirais-je, en Suède, en Norvège, etc., etc. Vous savez, mais c'est vraiment exempt, vous ne sentez même pas l'effet de corruption. Pourtant, ça est là, peut-être à 1%, à 2%, mais chez nous, c'est carrément à 98%. Donc, c'est ici le débat. C'est que nous devons réduire cette question et nous devons travailler impérativement. Madame, il nous faut la loi que nous avons élaborée, 450 délégués congolais, experts congolais sur la question de la corruption. On a élaboré cette loi, le chef de l'État nous doit nous retourner l'ascenseur en nous donnant cette loi. Si la loi n'est pas donnée, madame, moi je vous dis encore une fois, nous ne rejoindrons pas le commun des régions sociales en question. Je vous remercie.
Mbou José, analyste expert pays des questions de la corruption, merci d'avoir été des nôtres. Merci chers auditeurs de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme économique de Radio Okapi du lundi au vendredi. Vendredi 18h15 heure de Kinshasa, c'est Écho d'économie. Panorama économique, c'est samedi 12h30 heure de Kinshasa. Merci Willy Akonda, merci Jean-Claude Nsala, Agathe Mpona et Lema Kantael. Vous souhaite un bon week-end en compagnie des programmes de Radio Capi.